J'ai vécu une première expérience de l'entrepreneuriat. Quoi, ça m'a vraiment abîmé. Et en quittant cette boîte-là, je me suis posé la question m'aérer. Et j'avais la volonté d'apprendre un métier qu'on dit à l'époque, je voulais apprendre un métier manuel. Nous, il y a plein de trucs qui ont été compliqués. Il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Il y a plein de trucs sur lesquels on a galéré. Mais globalement, on a assez vite senti que chaque jour, on faisait un peu mieux que la veille. Quand tu es très passionné, enthousiaste, c'est d'arriver à dire attention, donne pas tout de suite, et d'arriver à gérer son capital énergie, psychique, physique. On m'a toujours laissé toi évoluer et voler comme j'avais envie de faire, tu vois, en fonction de mes talents. Et ça, je trouve que c'est vraiment super important de respecter en fait le respect et ne pas être dans le jugement permanent ou la critique selon ses idéaux. Et moi, j'ai eu un entourage qui a été extrêmement porteur là-dessus.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Quand on parle de Michel et Augustin, on pense vache à boire, cookies, mais aussi d'une aventure humaine absolument incroyable et une stratégie marketing redoutable. Pendant très longtemps, cette marque a été pour moi une grande source d'inspiration. Mais derrière Michel et Augustin, il y a aussi des trublions, et notamment deux hommes, dont Augustin. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Allez, je ferme la parenthèse. Augustin se qualifie d'élève moyen, mais a eu l'intelligence visionnaire de savoir surfer sur ses talents. Il fait donc un bidug à Nanterre et intègre ensuite le SCP. Il commence sa carrière chez Air France, puis au Club Med à la stratégie. Augustin participe à la création d'une entreprise dans la tech, puis retourne chez Air France en tant que salarié. Il va faire un CAP boulangerie, écrire un guide best-seller sur les boulangeries parisiennes, puis arrive le magnifique projet de Michel et Augustin. Je ne vous en dirai pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Augustin Paluel-Marmont. Bonjour Augustin.
Bonjour Charlotte.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît ?
C'est compliqué, mais c'est ce qui me suit quasiment tout le temps. C'est ce que j'appelle à l'époque, c'était mon cahier que j'appelais chasseur de papillons, sur lequel je note en permanence toutes mes idées. Et il y a quelques années, j'ai trouvé un vieux stock de petits cahiers sur lequel il y a qui est tout vert, donc couleur de l'espoir pour moi, et en énorme, il y a marqué « Game Changer ». Donc c'est un peu ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est d'avoir le maximum d'impact. Et donc j'aime bien, parce que voilà, c'est ce petit support sur lequel je note en permanence ce qui me traverse la tête. Et peut-être qu'un jour, je prendrai l'une de ces idées pour en faire une réalité, ce qui est pour moi la définition d'un entrepreneur.
C'est amusant que tu me parles de ça, parce que la semaine dernière, j'ai diffusé l'épisode avec Stanislas Gruau d'Explora Project, dont on parlait. Et lui a noté, en fait, pendant plusieurs années sur un petit cahier, le projet d'Explora. Et 5 ans après, il l'a
réalisé.
Il l'a réalisé. Et tout le monde lui a dit, mais en fait, tu vas hyper vite. Je fais, non, mais c'est pas que je vais hyper vite. C'est que ça fait tellement longtemps. J'ai gratté tellement de feuilles là-dessus que du coup, en fait.
Il avait tout en tête.
Exactement.
Et alors, moi, j'ai pris un exemplaire vierge.
Ouais.
Que j'en ai plein à la maison. Et c'est un peu la période que je traverse, qui est une période de jachère sur laquelle je réfléchis à beaucoup de choses. Et que progressivement, je vais coucher sur le papier. Et j'espère qu'un jour, j'en choisirai une pour l'exécuter.
Ouais, mais justement, on va en parler un petit peu après. Avant, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi ?
Moi, je suis né à Paris, je suis un pur parisien. J'ai grandi dans un coin qui était la porte de Clichy à Paris, donc dans le 17e, entre la porte de Clichy et la porte Pouchet. Voilà, j'ai grandi aussi en Seine-Maritime, du côté de Fécamp, dans le Pays de Caux, et aussi un peu dans les Cévennes. Donc je me sens à la fois très parisien, très cauchois et aussi cévenol.
Qu'est-ce qui a fait que du coup vous vous êtes baladé comme ça en France ?
Alors moi c'était mon lieu de résidence principale par mes parents était Paris Nord et par nos lieux de vacances et d'ancrage familial à la fois du côté de mon père et de ma mère, on était Sévenols et donc Cauchois. Et c'est des endroits que j'aime beaucoup parce que c'est des endroits qui sont très contrastés par rapport à Paris, notamment déjà par la densité humaine. Parce que c'est des coins quand même dans lesquels la nature a une très grande place et dans lesquels on ne retrouve pas les mêmes personnes que l'on côtoie à Paris. Donc j'aime bien moi ce décalage entre une vie citadine professionnelle et une vie entre guillemets de loisirs, de vacances, de respiration dans lequel on est plongé au cœur de la nature et dans lequel il y a très peu de gens et en tout cas ce ne sont pas les mêmes personnalités que celles que l'on côtoie au quotidien à Paris, donc j'aime bien cette notion de petite diversité.
Et ça, du coup, tu t'en rendais compte des petits ?
Oui, alors moi, c'est marrant parce que j'ai eu la joie de vivre donc Porte-Pouchet, mais c'était dans un environnement plutôt un peu privilégié de la Porte-Pouchet. Mais oui, le fait de vivre dans un quartier très cosmopolite. Qui était très vivant, il y avait beaucoup de diversité, beaucoup d'énergie dans la rue, beaucoup de vie hein, dans la rue. Moi, j'ai adoré et c'était oui, ça a été un des marqueurs de ma construction. Ouais. J'allais à l'école dans le 16e, qui est quand même un quartier plus policé, moins exubérant, et j'aimais bien ce décalage entre ma vie à l'école et le quartier de l'école et le quartier que je retrouvais le soir. Et c'était un peu une singularité déjà à l'époque et que j'ai vraiment beaucoup aimé cette diversité que l'on a vécue au quotidien.
Et tes parents, ils faisaient quoi ? Ou ils font peut-être toujours quoi d'ailleurs ?
Non, alors mes parents, ma mère, elle a été orthophoniste, puis elle s'est occupée de ses 5 enfants. Et mon cher père travaillait dans le milieu plutôt bancaire, finance. Voilà.
Ok. Et du coup, toi, quel type de petit garçon tu étais ?
Oh là là, j'étais, c'est compliqué de ça date, hein, mais c'était, moi j'ai plutôt été, je dirais, atypique, voilà, très très joyeux, vivant, très sportif, assez social, et j'irais rentrant pas toujours dans les cases. Donc j'ai suivi une scolarité normale, mais sans jamais être très à l'aise dans le milieu académique. Et j'ai plutôt souvenir que je me suis beaucoup réalisé, moi, par tous les projets extrascolaires que l'on avait à l'école, que ce soit sportif, social, humanitaire, théâtre et compagnie. Donc moi, j'ai adoré mes années de collégien, lycéen, mais j'étais pas très fort à l'école, mais je me suis vraiment réalisé dans tous les domaines parascolaires.
Ouais. Et quand tu étais petit, tu disais, quand je serais grand, qu'est-ce que je ferais ?
Alors j'ai voulu être, quand j'étais au primaire, j'avais un de mes meilleurs potes, on voulait tous les deux être vétérinaires sans frontières et bosser dans les parcs en Afrique. Ouais. Alors c'était plus par mimétisme avec mon copain, mais c'est vrai que j'avais cette idée du lion de Kessel où j'allais vivre dans une réserve, dans la nature, ça j'adorais ça, un peu aventurier. Après quand j'étais collégien, je voulais devenir champion de tennis. Ouais. Que j'adorais jouer au tennis, j'étais plutôt doué sans du tout être extraordinaire, mais j'ai beaucoup beaucoup joué au tennis et j'ai adoré ça, j'aurais rêvé d'être sportif haut niveau, professionnel, mais j'en avais pas du tout à l'époque le mental.
Et après tu dis ça ?
Parce que j'étais assez émotif au sens où je canalisais pas forcément très bien mon énergie et j'avais un mental plutôt, je vais pas dire instable, mais plutôt éruptif. Et après j'ai voulu être aventurier.
Ouais.
Explorateur, voilà, c'est un peu, mais voilà, j'ai toujours senti aussi que j'avais une forme d'aspect assez entrepreneur au sens où très jeune j'avais des idées et dont j'ai fait des réalités.
Comme quoi?
Comme des projets sportifs, des missions humanitaires qu'on a montées à l'époque où c'était quand même très précurseur quand on était en première. On est parti en Afrique un mois avec des copains, alors dans une utopie totale de sauver l'Afrique. Mais à l'époque, c'était quand même beaucoup moins fréquent que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, il y a un côté un tout petit peu précurseur, un peu utopiste aussi et très entrepreneur. Moi, je me souviens quand même de où j'écrivais des petits business plans sur des bloc-notes et que je laissais à mon père sur son lit pour qu'il me donne son avis le lendemain matin. Et je me souviens de deux, j'avais écrit un petit business plan mais avec un papier à crayon sur réinventer la distribution et la vente de journaux à la criée dans Paris. Et j'avais aussi écrit, je me souviens, un projet sur l'élevage de homards chez nous dans le pays de Caux. Donc voilà, moi j'ai toujours eu cette dimension entrepreneur de sa vie, et avec des parents qui nous ont toujours mis très vite face à nos propres responsabilités, à nos choix. Donc très vite ils nous ont fixé des cadres, ils nous ont fait des recommandations, mais très vite on a été chacun de mes frères et sœurs et moi-même mis en face de sa capacité à prendre soi-même ses décisions.
Ouais, ils vous ont donné les bonnes, j'allais dire les armes, mais j'ai pas envie d'utiliser le mot armes, en tout cas tout ce qu'il fallait pour.
Voilà,
pour
et moi dans les principes éducatifs que je retiens, que j'applique, j'essaye d'appliquer avec mes enfants et avec ma femme auprès de mes enfants, c'est je l'ai résumé en 2-3 lignes et le début de ces 2-3 lignes, c'est fais confiance à tes enfants. Et après, c'est donne-leur confiance, mais c'est d'abord de commencer par faire confiance à tes enfants.
Ouais. J'ai fait une expérience hyper intéressante. Je sais pas si tu connais le horse coaching.
Non.
C'est du coaching avec les chevaux.
Avec les chevaux, d'accord.
Avec les chevaux, t'as un cheval qui est dans un manège avec un cheval et t'as un coach qui décrypte, en fait, finalement, le comportement du cheval par rapport à ton comportement. Et ils t'apprennent ça, en fait. C'est vrai dans la vie, dans le management, dans l'éducation de ses enfants. C'est que si tu commences pas par faire confiance, en fait, c'est la base de tout, en fait.
Voilà, c'est faites-leur confiance et donnez-leur confiance en eux et pas à l'inverse, hein. C'est vraiment dans ce sens-là. Et voilà.
Sachant que toi, t'as 5 enfants.
Moi, j'en ai 5, oui.
Ouais, c'est beau.
Ouais, je sais pas si c'est beau, mais c'est un choix.
Ouais, bah c'est quand même beau. Enfin, moi, j'en ai 2, je me dis, c'est déjà génial. Et du sport. Et quand t'as commencé à te dire, bon, bah voilà, je vais avoir mon bac et tout, il faut que je choisisse une orientation, comment ça s'est passé?
Moi, j'avais à l'époque un domaine de prédilection qui était tout ce qui touchait le tourisme, le voyage, la découverte, parce que j'avais pas mal bourlingué étudiant. J'adorais ces grands moments. On avait 2-3 mois de grandes vacances l'été. On partait sac à dos, seul, avec des copains, sans aucun plan, juste un billet d'avion. Donc moi, j'ai fait pas mal d'Europe de l'Est, j'ai fait l'Amérique du Sud, j'ai fait une partie de l'Afrique, j'ai vraiment adoré ces moments de grande liberté où on a une notion du temps qui est totalement quasiment infinie quand on est jeune et on a aussi un sentiment de liberté totale parce qu'en fait, on n'a aucune responsabilité à part soi-même. Et donc j'avais cette appétence très forte pour le tourisme et la découverte et aussi une fascination un peu pour l'aérien et donc je savais que je voulais commencer ma carrière entre guillemets professionnelle là-dedans. Donc j'ai fait la fac où j'ai adoré, j'ai fait Paradis Nanterre moi en bidug éco-anglais à l'époque, j'ai adoré parce que je savais en plus que si j'allais en prépa j'arriverais jamais parce que c'est pas du tout mon terreau adapté en tout cas à ma façon de travailler. J'ai adoré la fac, je suis entré en école de commerce via la fac à l'ESCP à Paris.
Ça, mine de rien, quand, comme tu disais, tu étais un élève moyen, pour reprendre un peu tes mots, c'est chouette de faire l'ESCP quand on est un élève moyen. Ou est-ce que finalement, tu étais un élève moyen?
J'étais un élève moyen, voire moyen moins, mais j'avais une personnalité qui était plutôt... marquante, avec beaucoup d'enthousiasme, d'énergie, une forme aussi de singularité. Et c'est vrai que j'ai essayé de construire aussi mon parcours via cette singularité-là et ces aspérités-là. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans les concours en parallèle, je me souviens très bien que j'avais, toute humilité gardée, mais fait un carton plein parce que j'avais fait plein de trucs qui étaient... par rapport à tous mes petits copains qui étaient passés en prépa, qui étaient totalement étonnant. Et c'est vrai que j'ai fait un carton plein parce que je correspondais exactement à ce que ces recruteurs d'école de commerce cherchaient sur ce quota-là de profil.
Ouais.
Donc, c'était de se dire, voilà, en fonction de mes qualités, bah, comment je peux faire un peu la différence et quel est le meilleur chemin pour atteindre l'objectif que je veux, en sachant que... je suis pas très académique, mais c'est vrai qu'en France, on savait que les diplômes, ça avait toujours un peu d'importance, puis ça sécurise un peu tout le monde. Donc vraiment.
Quand tu dis ça sécurise un peu tout le monde, c'est quoi les parents.
Non, même soi-même, ouais. C'est-à-dire que voilà, on se dit voilà, c'est 2-3 ans de sa vie, puis après pour la vie entière, même si ça paraît ridicule, c'est toujours un actif important. Mais voilà, c'était toujours se dire comment est-ce que j'arrive à mes fins. En comprenant un peu la concurrence qui est autour de moi et en jouant réellement mes atouts parce que j'avais pas les mêmes que tout le monde et si j'étais allé comme un mouton en prépa j'allais me faire laminer et j'allais avoir aucune chance de m'en sortir. Donc c'est vrai que
cette conscience là dès l'époque.
Ouais ouais, j'en avais conscience très jeune et c'est vrai que par exemple à l'époque je me disais moi je voulais pas faire de stage en entreprise, que tous mes petits copains faisaient des stages et mes copines c'était souvent machine à café, photocopieuse, et moi je m'étais dit je prenais le parti pris d'aller plutôt vivre des grandes expériences seul, sac à dos, dans des missions humanitaires, et à l'époque, ils étaient plutôt sur la plage en France, ou à la machine à café dans l'entreprise de Paul-Pierre ou Jacques. Donc voilà, mais j'en ai eu conscience, et après, toute la suite de mon aventure professionnelle a été aussi relativement singulière, parce que c'est comme ça que j'exprimais mes talents.
Ouais. Et du coup, c'est quoi tes talents ?
Mes talents, c'est compliqué, mais je pense que j'ai une forme de sensibilité assez forte, ce que j'appelle un peu consommateur, citoyen, père de famille. Je sens assez bien les choses et j'ai une intuition assez bonne sur ce qui pourrait arriver demain. Pas surtout, mais de temps en temps, j'ai des formes un peu de vision, voilà. Puis après, je pense que j'ai une capacité à partager un enthousiasme assez fort et donc à fédérer des personnes autour d'une idée ou d'un projet et donc de donner sens à tout ça. Donc moi, personnellement, je sais pas faire grand-chose, mais c'est vrai, j'ai cette capacité à avoir une forme de vision et d'arriver à fédérer par un enthousiasme un peu communicatif des talents autour de ce projet-là.
Ça, c'est un vrai sujet. On en a parlé récemment avec Camille Perrotte, donc qui a gagné le meilleur pâtissier, et Nathalie Edlinger, qui est une personne aussi que je suis dans En Chemin. Et c'est un vrai sujet de se dire quel est mon rôle, en fait, et de savoir accepter qu'il y a des moments où on ne sait plus faire et de savoir s'entourer personnes. Mais c'est vrai que pour les personnes qui se lancent, c'est vrai, c'est souvent un petit moment un peu complexe.
Oui, oui, et tu vois, nous, on s'est lancé à deux dans l'histoire Michel Augustin, parce qu'il y avait la notion d'amitié, de partage qui était au cœur de cette aventure. Voilà, donc moi, un de mes talents, je pense que c'est d'être un peu trublion.
Ouais.
C'est un joli mot, je trouve.
Ouais.
Trublion et de fédérer des énergies, des talents autour de projets.
Ouais. Et du coup, quand tu finis le SCP, tu bosses au Club Med, donc dans l'univers du voyage.
Alors je bosse. Alors j'ai déjà un premier truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'avais fait un stage un peu par hasard. Pas par hasard, mais j'ai été pris un peu au forceps chez Air France en Espagne. J'avais fait un stage juste avant dans une banque à Londres et j'avais rien compris. Donc au moins j'avais appris que c'était vraiment pas mon univers. J'avais rien compris. Hein. Je comprenais rien à ce qu'on me disait. C'était quasiment une humiliation totale, mais en tout cas une conviction que c'était pas du tout fait pour moi. Et pourtant ça faisait classe de dire j'étais en stage chez BNP à l'époque à Londres. Et j'ai fait ce stage chez Air France que j'ai eu vraiment en insistant beaucoup, parce que je me souviens très bien que le gars qui m'avait pris m'avait dit mais t'as tellement été mauvais en entretien que je m'étais juré de jamais te prendre, et que j'avais tellement insisté après que le mec avait dit ce mec a l'air d'être cinglé, mais il a tellement envie qu'on va quand même faire un énorme pari en le prenant. Et là où ce gars-là a été extraordinaire pour moi, c'est qu'il m'a laissé j'avais, je sais pas, 20, 21 ans, et j'étais pauvre, un petit stagiaire, quoi. Et il m'a laissé totalement carte blanche. Et en fait, très vite, j'ai eu une idée de créer un produit qui était en fait un concurrent aérien du Pass Interrail pour les trains. Vous savez, le Pass Interrail qui sont souvent utilisés par les jeunes, qui permettent de visiter l'Europe avec un billet unique. Et j'ai eu cette idée de faire la même chose sur l'aérien avec Air France. Et le numéro 2 de la délégation Espagne-Ibérie-Portugal m'a laissé carte blanche. Donc, j'ai vraiment construit le produit de zéro. Je l'ai commercialisé et assuré tout le lancement en Espagne, au Portugal, puis après en Europe. Donc, je me suis retrouvé dans des situations à 21 ans où je sillonnais l'Europe pour vendre le produit aux autres délégations, à faire des petits shows dans les grands séminaires européens d'Air France et tout ça à 21 ans en sortant. Et tout ça pour te dire que c'était la première fois, en fait, que je prenais vraiment confiance en moi. Parce que d'une idée, d'une intuition, j'en ai fait une réalité avec un relatif petit succès. Et surtout avec quelqu'un qui m'a fait confiance et qui me dit « Écoute, banco, vas-y ». Donc voilà, j'ai vu que c'était ce type d'univers qui me plaisait, d'être capable de créer vraiment des choses, de les vendre, et avec un grand niveau d'autonomie et de responsabilisation. Ça, j'ai adoré. Et donc, en sortant de l'ESCP, je suis allé directement après chez au Club Med, effectivement, pour faire mon premier job. J'étais dans la cellule stratégie. Et auprès d'une femme qui était vraiment très brillante, qui était directrice de la stratégie, qui elle-même reportait à l'époque à Philippe Bourguignon, le patron du Club Med. Et j'ai trouvé que la boîte était vachement intéressante, avec une vraie culture, une très belle histoire, un produit vraiment singulier aussi. Mais le job dans lequel j'étais, c'était un gratte-papier de la patronne de la stratégie. J'étais pas du tout bien, parce qu'en fait, tout ce côté formalisation d'une stratégie, c'était pas mon talent du tout, et donc j'ai à la fois beaucoup appris, mais j'étais pas bon dans ce job là je suis resté en fait assez peu longtemps, parce que au bout d'un an et demi, j'ai un copain qui m'a proposé de rejoindre son frère qui montait une boîte dans les nouvelles techno, je me suis dit, tiens, c'est le bon moment pour tenter une première aventure entrepreneuriale. Ça a été à la fois un succès, mais surtout un désastre au départ, parce que je comprenais rien à ce que faisait la boîte. C'était une bande de fous furieux, de polytechniciens qui étaient quand même visionnaires, parce qu'ils étaient déjà sur des sujets d'intelligence artificielle. Mais c'est une boîte dont j'ai jamais compris l'activité, dont j'étais cofondateur, directeur du marketing et commercial. Et pendant 9 mois, en fait, comme, je peux dire que c'était une arnaque, ce truc-là, mais on comprenait rien à ce qui se passait dans une espèce de boîte noire qui avait un logiciel soi-disant révolutionnaire, mais qu'on n'avait jamais vu et qu'on était incapable de juger. Moi, je suis parti au bout de 9 mois, mais un peu abîmé, parce que les mecs avaient été assez violents, avec beaucoup de pression psychologique et tout. Et au bout de 9 mois, je lui dis, écoute, je préfère me barrer, parce que je vais pas tenir plus longtemps.
En fait, t'étais entrepreneur, mais pas totalement non plus tout seul, quoi.
J'étais pas du tout leader du projet. J'étais une des roues du dispositif, mais surtout pas du tout dans le bon setup en termes de terreau. J'avais pas du tout le talent pour. Mais j'ai vécu une première expérience de l'entrepreneuriat, et ça m'a vraiment ça m'a vraiment abîmé, cette expérience, parce que les gars étaient très violents, psychologiquement, je veux dire. Et en quittant cette boîte-là, que je me suis posé la question m'aérer, et j'avais la volonté d'apprendre un métier qu'on dit à l'époque, je voulais apprendre un métier manuel. Mais j'ai entendu la semaine dernière Guy Savoie utiliser une expression que je ne connaissais pas et que je pense qui est assez nouvelle, en parlant de cuisinier. Il disait, c'est pas un métier manuel, c'est un métier gestuel. Et je trouve que c'est une bien meilleure expression. Et donc, à cette époque-là, je voulais apprendre un métier gestuel pour avoir cette compétence-là, parce que j'ai des copains qui étaient avocats, qui étaient architectes, qui étaient médecins, et en sortant d'école de commerce, c'était un peu rien. Et sans faire de thérapie profonde, je me suis lancé à aider le boulanger en bas de chez moi.
Donc là, tu bossais plus.
Là, je bossais plus. Je pense que j'avais été licencié, donc je devais être au chômage de ma boîte. Ouais. Et je me souviens, je me souviens parce que j'étais passé devant une commission régionale à l'époque de l'ANPE. Parce que comme j'avais été actionnaire de l'entreprise, c'était pas certain que je puisse toucher le chômage. Donc il m'avait licencié, et je me souviens d'avoir, je crois à l'époque, pu toucher le chômage pendant quelques mois, passer mon CAP en candidat libre.
Ouais, CAP du coup pâtissier.
Boulanger. Moi, je suis pas pâtissier, boulanger, où t'as le pain de la viennoiserie, mais t'as pas de pâtisserie. Okay. J'avais pris moi des cours de pâtisserie après à la mairie de Paris le soir, les cours pour adultes.
T'as toujours été quelqu'un qui pâtissait beaucoup?
Non, j'aimais bien le pain, je voulais apprendre un métier manuel, j'aime bien réveiller tôt, j'ai pas fait de thérapie profonde pour savoir pourquoi, mais c'était un univers qui me plaisait pas mal comme ça, mais j'aurais pu être boucher, mais j'aurais pu être peut-être fromager, j'en sais rien. Mais j'aime bien l'ambiance un peu chaud, humide, solitaire, des fournils, tôt le matin, en sous-sol, on écoute la radio. C'est, je trouve ça assez sympa d'être en décalage comme ça.
Du coup, avant de faire le CAP, tu as été voir ton
boulanger ? Ouais, en fait, c'est, je suis allé donner un coup de main à un boulanger et c'est mon boulanger qui m'a donné l'idée de passer mon, de sanctionner cette découverte par un diplôme et donc de passer ce CAP en candidat libre. C'est grâce à lui et comme je l'aidais le matin à faire le ce qu'on dit le four, c'est-à-dire avec des sacs de farine et tout, c'est lui qui me dit écoute, l'après-midi, tu pourrais, si tu veux, te servir du fournil qui est libre, hein, parce que les boulangers partaient à 14 heures. Et il m'a même mis un gars jeune, que j'ai jamais revu, qui s'appelait Xavier, et qui m'a formé sur son temps libre l'après-midi.
Super.
Super sympa, le gars. Et voilà, après, donc, j'ai passé le CAP en candidat libre.
Et comment ils ont réagi ton entourage quand tu leur as dit que tu passais le CAP au boulanger?
Moi, j'ai toujours eu un entourage très, très enthousiaste ou très, voilà, qui m'a jamais freiné dans mes projets. À l'époque, j'étais marié, déjà, j'étais marié.
C'était en 2001, ton CAP.
Ouais, parce que je me suis marié en 99, tu vois. D'accord. Donc,
tu t'es marié hyper jeune.
Ouais, je me suis marié à 23 ans. Et donc, mon entourage a toujours été très supportif dans mes démarches. Et voilà, je le passais sans aucun arrière-pensée. Je l'ai passé, je me souviens très bien, à Ferrandi en candidat libre, donc dans le près de Saint-Germain-des-Prés là. Donc c'est une grosse épreuve quand même de 7 heures avec pas mal de production. Puis moi, je suis pas très doué, donc c'était vraiment un truc compliqué pour moi. J'ai adoré aussi cette découverte du monde de la boulangerie parce que c'est beaucoup d'humilité. Tu arrives dans un milieu où tu es, entre guillemets, tu n'es rien et tu ne sais rien faire. Et tu as beau avoir fait une école, je ne sais pas quoi, c'est même pas le sujet. Et tu vois des gens faire et tu te dis, ça ne va pas être si compliqué. Puis en fait, tu t'aperçois que façonner, quoi, pétrir, façonner une baguette, tu vois des gens faire. C'est ça qui est dingue sur les métiers gestuels, c'est que tu vois les gens faire, tu te dis, ça ne va pas être très compliqué, mais tu essayes juste après et tu n'y arrives pas. Et par la force du travail, de la répétition, tu arrives à un moment ou à un autre à avoir le geste qui te permet de faire. Donc moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette notion de d'humilité, de découverte, d'apprendre de gens qui sont peut-être pas câblés comme toi, mais qui ont aussi des talents extraordinaires. Et c'est en sortant de mon examen que j'ai déjeuné dans un bistrot à Saint-Germain-des-Prés. Et le pain qu'on m'a servi était dégueulasse. Et là, je me suis dit, tiens, c'est pas possible. Ça fait des années, ça fait des mois, pardon, que tu apprends à faire du pain. Tu viens de passer 6 heures là à produire des baguettes et de la viennoiserie pour ton jury. Et là, t'es dans la capitale mondiale du pain. T'es à Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Et on te sert un truc pas bon. Et là, j'ai eu une idée comme ça que j'ai notée sur mon petit cahier qui était de dire un jour, peut-être que si j'ai l'occasion, j'aimerais faire le guide Michelin du pain. Mais voilà, je me suis né pour participer aussi à redonner envie aux Parisiens de redécouvrir ce que c'était que le bon pain. Et j'avais noté ça sur mon petit cahier à l'époque, mais sans arrière-pensée, hein.
Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé juste après ce moment où tu t'es dit ok, je passe mon CAP boulanger, j'ai cette idée dans mon petit calepin.
Après, je suis passé, j'ai été rappelé par la personne pour qui j'avais bossé chez Air France en Espagne, qui avait été muté à Paris au siège d'Air France et qui m'a proposé un job, donc un peu coup de bol. Il m'a recruté au siège d'Air France et quasiment le jour où je suis arrivé, en fait, lui était muté en fait ailleurs, il me l'avait pas dit. Et donc, en fait, je me suis retrouvé à dépendre de quelqu'un d'autre et dans un univers de siège social d'une très grosse boîte, un peu préhistorique aussi à l'époque. Et là, je me suis très vite rendu compte que j'allais être très malheureux. Donc, j'ai essayé de bosser, mais ce que je bossais n'intéressait pas grand monde. Donc, j'ai aussi profité pas mal des GP à l'époque, hein, qui étaient les billets un peu gratuits pour le staff d'Air France. Donc, j'ai beaucoup voyagé avec ma femme, on s'est bien marré. J'ai cherché à partir plusieurs fois à l'étranger pour Air France, mais j'ai jamais été pris. J'avais postulé pour Johannesburg, pour la Colombie, pour Alger. Et en fait, je pense que les mecs me trouvaient complètement inadapté et je devais leur faire un peu peur. Donc, j'ai jamais été pris. Et donc, j'ai décidé à un moment de quitter Air France. Et il y a un petit truc qui est important pour moi qui s'était passé quand j'étais chez Air France, c'est que la boîte que j'avais cofondée et dont j'étais parti a été très bien racheté à ce moment-là par un fonds Partech. Et ce qui m'a permis de gagner de l'argent à l'époque, je me souviens, j'étais allé chercher, je sais pas, je dois avoir 23 ou 24 ans, même pas, 20, 23 ans peut-être, d'aller chercher mon chèque dans un café à Saint-Michel. C'était un chèque pour un gars de 22, 23 ans conséquent, quoi.
On peut dire le montant ou pas?
Je sais plus, oui, mais c'était le prix, c'était, je crois que c'était 300 ou 400 000 euros.
Ouais, chouette.
Donc, oui, pour avoir, et c'était chouette parce que ça m'a permis déjà de me dire, tiens, j'ai un petit, déjà, pécule de côté.
C'est pas ça qui fait que t'arrêtes de bosser, mais
non,
en tout cas,
non, c'est déjà cette, voilà,
quoi.
Une base, ça te donne un peu de temps, déjà. Et surtout, d'un échec qui avait été cette première création d'entreprise, qui avait été quand même très dur, j'en ai, par ce gain financier, ça a été en fait un succès.
Ouais.
Donc, ce que j'avais considéré comme, pour moi et pour tous les gens autour de moi, comme un échec, même si j'avais appris plein de choses, d'un coup, c'est devenu un succès parce que c'est, j'ai monté une boîte et je l'ai revendue. Et ça me permet d'avoir un peu d'argent de côté et de sécuriser un peu les quelques années à venir et surtout d'avoir du temps. Donc moi j'ai quitté Air France pour avec un super truc qui était le congé pour création d'entreprise.
Ouais. Sachant que du coup quand t'as quitté Air France, tu savais que tu voulais monter ta boîte et
non,
de quoi?
Non, si je savais que je voulais monter une boîte, mais pas du tout de quoi. Et je suis parti avec un congé création d'entreprise qui est un super outil juridique en France dans le droit social. Pas du tout pour monter une boîte, pour faire là le projet que j'avais en tête qui était de faire le tour des boulangers de Paris. Donc c'est là où j'ai proposé à des amis de me dire j'aimerais écrire le guide Michelin du pain et donc cherche un co-auteur, parce que je préfère partager les choses.
Ouais.
Et donc j'ai proposé à plusieurs copains, il y en a un qui m'a répondu banco, c'était mon copain Michel de collège. Et donc avec Michel, on est parti à la découverte des 1263 boulangeries artisanales que comptait Paris à l'époque. Et avec l'idée d'en faire la sélection des 180 meilleurs par la qualité du pain, de la viennoiserie, du décor, du service, plus toute une grille d'analyse organoleptique assez poussée qu'on avait mis en place. On avait écrit un sentier des grandes boulangeries pour découvrir Paris par ses plus belles boulangeries, un peu à l'image des sentiers de grande randonnée. On avait interviewé plein de boulangers, des experts, des écoles sociologiques. On avait demandé à des personnalités d'écrire des tribunes. Donc, on avait fait vraiment un très beau guide qui s'appelait « Guide des boulangeries de Paris ». Qui était à la fois quoi, vraiment un travail de hobby, de passionné, mais passionné, très investi, très engagé, très sérieux, très complet. On l'a bien sûr, on l'a fait éditer dans une très belle petite maison d'édition qui a disparu depuis, qui s'appelait l'édition de l'IF, avec deux entrepreneurs qui avaient vraiment un vrai talent graphique et photographique. J'avais trouvé ça canon.
Du coup, tu étais allé les voir en disant « J'ai ce projet, j'aimerais vous m'éditer
». Alors, on avait eu deux, trois offres et on avait choisi ces gars-là parce que c'était esthétiquement le mieux. Après, ils étaient un peu à la rue sur plein de trucs, donc on les avait un peu aidés. Mais on en a vendu 12 000 à l'époque sur Paris, ce qui était pas mal. Et surtout, c'était vraiment un truc passionnant. Et on a aussi commencé un peu de fait à avoir une médiatisation à l'époque, parce que c'était un parcours original. C'était deux gars qui sortaient de nulle part, qui s'autoproclamaient un peu les experts du pain. Et de fait, le travail qu'on avait fait, toujours pareil, hein, quand personne ne le fait avant vous, de fait, vous devenez un peu les experts. Aujourd'hui, tu cherches à faire un truc comme ça dans le vin, bah, t'as aucune chance tellement il y a de guides, mais à l'époque, il n'y avait pas un guide sur le pain, il n'y en a toujours pas beaucoup. Hein.
Ouais.
Et donc, on est devenu un peu par l'histoire et la singularité du travail, assez vite couvert par les médias. Donc, on s'est marré à 22 ou 23 ans à faire les plateaux télé, les Ruquier, les Stéphane Bern et compagnie.
Ah ouais, ouais.
Donc, c'était hyper marrant pour nous. Tu vois, c'était un peu grisant et tout. Puis, c'est vraiment, il y a eu de l'écho. C'est-à-dire que dans le milieu boulanger, ce travail a été un peu vu de manière bizarroïde au départ. Puis, ça a vraiment été reconnu comme un travail de qualité. On a rencontré plein de gens vraiment passionnants, vraiment des femmes et des hommes passionnés par leur métier qui vous disent « Non, mais je peux pas te recevoir, j'ai pas le temps », puis ils t'accordent une minute, puis en fait, deux heures après, tu es toujours avec eux parce qu'ils te parlent de la farine, de leur blé, de leur savoir-faire, de leur histoire. C'était vraiment canon. Michel, lui, est parti à ce moment-là à l'INSEAD, un peu vexé que j'ai un double diplôme SCP, CAP. Lui n'avait fait que le SCP, mais il avait fait deux ans avant moi.
Vous avez fait le collège et vous étiez retrouvé du coup?
Non, c'est partout parce que lui est beaucoup plus brillant que moi, donc il avait fait deux ans en avance. Et donc, non, lui, il avait deux ans. On s'était pas donc, beaucoup vu à l'école, voire pas du tout. Et on s'est retrouvé pour le guide des boulangeries. Lui, il est parti à l'INSEAD parce qu'il avait fait avec le SCP. Moi, j'avais mon CAP en poche. Et c'est là où j'ai ressorti mon petit cahier chasseur de papillons avec toutes les idées que j'avais en tête. Et il y en a une que j'ai décidé de creuser, qui était celle de l'intuition de départ de l'aventure Michel et Augustin.
Donc, l'intuition de départ, c'était des cookies à la base.
Non, l'intuition, c'était pas des cookies. L'intuition de départ, c'est de dire quand je pâtisse chez moi le week-end avec mes enfants, je fais des gâteaux qui sont super bons et globalement assez simples à faire et en plus avec des ingrédients assez simples et de qualité. Et c'est vraiment très bon, tu vois. Moi, je suis toujours surpris. J'ai encore fait avant-hier un gâteau au chocolat là, avec une de mes filles qui sortait de l'école. Honnêtement, un bon gâteau au chocolat, c'est quand même très très simple à faire. Et quand c'est bien fait, je trouve que le résultat est exceptionnel. Et j'ai pas un coup de main particulier. Donc c'était un peu ça, dire comment on fait des trucs aussi bons chez soi et aussi simples dans la recette et dans les ingrédients. Et pourquoi tout ce qu'on achète à l'époque dans les grandes surfaces, dans ces domaines-là, était quand même globalement pas très bon, voire pas bon du tout. Et souvent, en plus, il fallait un prix Nobel de chimie. Il n'y avait pas Yuka à l'époque hein, pour décrypter les étiquettes. Donc, c'était un vrai sujet de réflexion. La deuxième chose, c'était que moi, les marques qu'on me proposait dans les supermarchés, c'était des marques, je me sentais un peu manipulé ou je me disais c'était des histoires fausses ou inventées ou des grands-mères qu'on vivait encore sur des légendes. Et donc, je me sentais pas touché en tant que consommateur. Je me sentais plus manipulé ou on me racontait un peu des salades. Voilà, donc c'était un peu ça les deux intuitions, en disant on va peut-être pas inventer une marque, on va simplement raconter ce que l'on vit au quotidien en tant qu'entrepreneur en partant d'une cuisine. Donc il y avait cette vision de se dire, et ça a été une grosse innovation à l'époque, de dire en fait on ne va pas inventer une marque, on va simplement raconter ce que l'on vit au quotidien. Et on a eu la chance, c'est qu'on a très vite décidé que nos packaging allaient être notre premier média. On les a considérés comme un petit journal dans lequel on allait écrire ce que l'on vivait. Et on a été quand même aussi au moment de la naissance des réseaux sociaux, qui était pour nous un territoire d'expression tout naturel, où en fait, tous les jours, on racontait ce que l'on vivait. Et donc, on n'était plus dans des discours institutionnels, froids ou historiques ou figés, mais on était dans des discours réels. Du quotidien de deux entrepreneurs et d'une tribu passionnés du goût, de la pâtisserie, de la vie. Voilà, et tout ça étant dit, on avait aussi très vite considéré le fait de, si on crée une entreprise, que ça soit aussi pour promouvoir, alors maintenant on dit entreprise à mission, c'est tout ça c'est super, mais moi je n'ai jamais construit une entreprise qui ne soit pas une entreprise à mission. C'est-à-dire que nous, il y a 15 ans ou 16 ans, on s'était dit, mais l'entreprise va être au service des idéaux un peu humanistes qui nous animent, c'est-à-dire une forme de solidarité, d'enthousiasme, de donner aux personnes envie d'être entrepreneurs dans leur vie. Donc on s'était dit, plus on va faire une entreprise qui va être forte, puissante, qui va avoir de la résonance, plus que nous on a envie de dire, aura de la résonance, parce qu'on sera invité, parce qu'on sera couvert, etc. Donc c'était ça un peu l'intuition de départ, mais je te dis ça, on était nulle part, on avait 23 ou 24 ans, et on était dans ma cuisine de mon appart de 60 mètres carrés, Paris 18e. Hein.
Du coup, t'as dit à Michel, quand il est revenu de l'INSEAD, allez viens, on...
Ouais, j'ai fait une liste de quelques amis, parce que moi je ne pouvais pas ne pas concevoir m'associer avec des amis. J'en ai un premier qui a commencé à rejoindre le projet, qui est un super copain aujourd'hui, mais avec qui on s'est tout de suite pas entendu en termes de mode de fonctionnement. Michel est arrivé, j'ai proposé à un autre copain de venir qui m'a décliné et qui est toujours un très très bon copain. Et Michel lui était à Singapour à l'époque pour l'INSEAD. Il m'a dit, écoute, j'ai pas bien compris ton truc, puis j'entends rien, je suis à Singapour, va voir mon frère qui va te faire passer un entretien. Donc, je suis allé voir son frère aîné, que je connaissais un tout petit peu, dans un appart rue du Rocher, Paris 9e, qui m'a reçu, mais quasiment pour un entretien. Et il a débriefé après son frère, et visiblement, il a dit, écoute, ça a l'air d'être un peu farfelu, mais peut-être pas tant que ça. Et Michel, qui avait un parcours plus classique de consultant, m'a dit, écoute, quand je reviens de Singapour, je te rejoins. Et c'est comme ça qu'il m'a rejoint dans ma cuisine et qu'on est partis ensemble.
C'est fou, le fait que de te faire passer un entretien par ton frère, c'est quand même un truc un peu improbable.
Ouais, non, mais ce qui est dingue, c'est que toi, ça fait très longtemps que j'avais pas repensé à cette anecdote. Et son frère, qui est un mec brillant, mais qui n'est pas un original et ni un rigolo de service. In fine, j'ai beaucoup de chance. Je vais peut-être lui envoyer un mot pour le remercier. J'ai eu beaucoup de chance qu'il donne sa bénédiction à Michel. Parce que, évidemment, c'est le duo, la complémentarité de nos talents, de nos personnalités aussi, de nos envies, qui ont fait qu'on a réussi à le faire ensemble et que moi, jamais seul, j'aurais fait ce qu'on a fait avec Michel. Donc c'est là où c'est vraiment une histoire qui s'est nourrie des deux personnalités, puis celle de la tribu après.
Ouais. Et du coup, quand vous avez lancé Michel et Augustin, une fois encore, comment votre entourage il a réagi? Parce que aujourd'hui, être entrepreneur, finalement, c'est un peu à la mode. À l'époque, pas du tout, et encore moins dans ce type de projet.
Oui, j'ai jamais vu ou je n'ai jamais voulu voir mais je ne crois pas que j'en ai eu de résistance. Après moi, mes copains m'encourageaient plutôt parce que ça les faisait marrer. En gros, c'est je te conseille de faire un truc que j'aurais jamais fait moi-même. Hein, donc c'était aussi un peu vivre cette prise de risque entrepreneuriale par procuration. Et moi, j'ai pas de souvenir que mes parents m'aient fait de commentaires négatifs, même plutôt, je pense, positifs. Puis moi, j'étais quand même marié à l'époque, j'avais déjà deux enfants. J'avais ce petit pécule de côté qui me permettait de pas me mettre en danger patrimonialement parlant. Et j'ai toujours eu la chance d'avoir une femme qui est très saine de fonctionnement, qui a pas d'inquiétude majeure face à la vie, quelqu'un qui a confiance en la vie, et donc elle m'a toujours encouragé. Ouais. Tu vois, et ce que je pense important, c'est que nous, il y a plein de trucs qui ont été compliqués, il y a plein de trucs qui n'allaient pas, il y a plein de trucs sur lesquels on a galéré, mais globalement, on a assez vite senti que chaque jour, on faisait un peu mieux que la veille. Donc en fait, même si tout n'est pas au vert, pas grand chose était au rouge, t'avais pas mal de trucs à l'orange, mais on avait quand même 2-3 indicateurs que chaque jour on vendait un peu plus que la veille, chaque jour on parlait un peu plus de nous que la veille, chaque jour on grandissait un peu plus que la veille, chaque jour on apprenait de la veille. Donc c'est là où on a jamais, moi je vais pas dire, j'ai jamais eu l'impression de prendre de risques.
Ouais.
Parce que j'avais 25 ans, si au bout de 2 ans ça marchait pas, j'aurais bien rebondi ailleurs, tu vois. Donc c'est là où je vois les copains qui dans notre génération maintenant ont 40, 45, 50 ans, qui sont salariés et qui ont envie de se lancer. C'est beaucoup plus compliqué pour eux aujourd'hui. Moi, c'est peut-être pas audible, mais j'ai jamais vraiment eu l'impression de prendre de risques.
Non.
Non.
Ouais. T'as pas eu de frein, de questionnement en te disant si je fais ça, est-ce que je vais avoir peur par rapport au regard des autres, par rapport à l'argent?
Non. Parce que j'étais en congé de création d'entreprise, donc je pouvais retourner chez Air France si ça plantait, et comme tout le monde peut utiliser une création en congé d'entreprise, j'avais un tout petit peu d'argent de côté. Puis moi, je vois, c'est toute expérience qui est vécue avec engagement, passion, intelligence. On s'enrichit, on apprend. Donc le pire, moi, c'était une femme chez Air France qui m'avait dit ça, qui m'a dit le jour où tu n'apprends plus, il faut partir. Donc dès lors que tu apprends au quotidien de l'expérience que tu vis avec intelligence, tu t'enrichis et donc tu seras meilleur dans l'expérience d'après. Donc moi, j'ai jamais eu peur.
Ouais, bah super. Et qu'est-ce qui a fait, selon toi, que ça a autant cartonné aussi rapidement?
Non, attention, ça a pas cartonné aussi rapidement. Ça a été un secteur qui était quand même très concurrentiel. C'est un secteur très laborieux, tu vois. Donc, nous, on s'est distingué très vite par la tonalité de l'aventure, par cette incarnation en temps réel, par la qualité des produits, par cette énergie commercial un peu disruptif dans le secteur, qui était quand même un gros secteur ronronnant, dominé par des industriels ou par des PME qui étaient un peu pleines de poussière. Mais ça a été, je veux dire, ça a été très laborieux au sens, on n'a jamais eu d'accélération incroyable, il n'y a jamais eu de point d'inflexion, tu vois, ça a toujours été une croissance qui, en partant de zéro, était constante, était solide, mais il n'y a pas eu de, il y a eu deux trois moments un peu exceptionnels dans l'aventure, mais qui restaient quasiment des symboles.
Ouais.
Il y a le coup avec Starbucks en 2015, où là, on a vécu un truc émotionnellement qui était qu'on vit qu'une fois dans sa vie, je pense, en termes de business, qui était fou. Mais en 15 ans, ça a été besogneux, laborieux, mais pas au sens dépressif.
Ouais.
Au sens, on vend des yaourts, on vend pas de la tech qui s'envole tout seul du jour au lendemain. Donc, c'est vache après vache qu'il faut vendre sa vache à boire. Hein.
Ouais. Et notamment, je crois que toi, c'est juste après l'épisode avec Starbucks que tu es parti vivre avec ta famille à New York.
Ouais. Donc ça, c'était au bout de 12-13 ans. On voulait commencer à tester un peu les marchés étrangers. On a choisi les US pour plein de raisons. Et honnêtement, moi, on a adoré l'expérience personnelle aux US. Après, au niveau professionnel, c'était quand même très compliqué. Parce que c'était un peu refaire ce qu'on avait fait en France.
Ouais.
Donc moi, j'ai trouvé en fait moins de plaisir à faire l'aventure. Après, j'avais une équipe sur place qui a été remarquable en termes d'exécution, qui ont fait un travail pendant 2 ans, les temps où j'y étais, incroyable. On était partout dans les grands magasins et les petits magasins dans le grand New York, avec la même rigueur, le même engagement qu'on avait fait en France 10 ans avant. Mais malheureusement, tout ce qu'on a fait, globalement tout ce qu'on a fait, ça n'a pas marché.
Ouais.
On ne vendait pas de produits, on ne vendait pas nos cookies, sauf dans un secteur qui était le hors domicile, qui sont toutes les petites cafétérias d'entreprise. On a eu des très beaux deals avec donc Starbucks et Delta, mais globalement, en supermarché, ça ne marchait pas. Pourtant, on était présent et moi, j'ai jamais compris pourquoi.
Ouais.
Voilà, donc ça a été une superbe aventure, mais je peux pas dire qu'on ait compris encore aujourd'hui les clés du marché américain.
Ouais, c'est compliqué.
Ah, c'est très compliqué. Ouais, c'est ils ont 2 jambes, 2 bras, la même tête que nous, mais en fait tout est différent.
Ouais, ils n'ont pas le même mindset que nous.
Et là où en France on a fait beaucoup de choses à l'intuition, parce que quand on nous disait ouais les mecs vous êtes des stars du marketing, moi j'avais jamais appris le market, j'ai jamais aucune méthodologie. C'était beaucoup d'intuition et de bon sens. Je me souviens très bien quand on a lancé Michel Augustin, d'une ou deux personnes qui disaient, non, mais les gars, il vous faut une plateforme de marque, c'est vraiment indispensable et tout. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait, on en a jamais eu, et ça nous a pas empêché de faire ce qu'on a fait. Donc, c'est là où on a été, nous, très dans l'intuition, dans une intuition qui était raisonnée, travaillée, mais de l'intuition, et beaucoup de bon sens.
Ce qui est drôle, c'est que notamment le cas avec Starbucks, c'est un cas d'école en école de commerce maintenant. C'est rigolo de se dire que qu'en fait votre marque est un cas dans les écoles de commerce
en
marketing et qu'en fait vous avez jamais vraiment appris le marketing.
Non, et ça, tu vois, dans les éléments un peu de reconnaissance, le fait d'avoir été très souvent sujet national d'examen dans des brevets, des BTS, au bac aussi, je pense, on a été, peut-être moins aujourd'hui, mais quelques années, on a été sans doute l'entreprise la plus étudiée en école de commerce. On avait une personne quasiment dédiée à la bananeraie qui s'occupait de recevoir les emails, les questions de tous les étudiants qui nous appelaient pour nous étudier. Et nous, là, on l'a aussi vécu comme un média, au lieu de quelqu'un qui appelle, de le traiter à la va-vite, comment est-ce que cet appel, on va s'en servir comme caisse de résonance pour que dans l'école ou la fac dans laquelle est cet étudiant, on va rayonner. Donc nous, on a, tu vois, être sujet national d'examen au BTS ou au bac pro, tu touches, je me souviens, il y a un BTS, quoi, relation client, on a été sujet national d'examen sur 15 000 étudiants pendant 3 heures. Nous, on considère ça comme une valeur média.
Ouais. Ouais, c'est génial.
Exceptionnel. Donc, on mettait les moyens en face pour être certain que jamais dans une boîte normale, on était avec quelqu'un qui gérait ça. Nous, on misait dessus parce qu'on pensait que c'était des... Et là aussi, c'était très singulier et donc ça avait beaucoup de valeur pour faire connaître l'aventure au plus grand nombre.
Après, moi, je me rappelle, on s'était rencontrés à l'époque parce que je travaillais chez l'éditeur de logiciels qui gère votre logiciel de relations clients.
Ouais, ouais.
Et là, c'est l'entreprise accessoirement de mon mari. Et en fait, je me rappelle à une conférence, tu avais raconté qu'en fait, c'était toi qui était en copie ou parfois qui répondait au message du service client, et je m'étais dit c'est quand même c'était une époque où vous étiez déjà en pleine croissance et là on voyait beaucoup la marque, et je m'étais dit c'est impressionnant et c'est bravo quoi.
Non mais tu vois, ça c'est dans les choses que on a apprises, et j'en parlais plus avec un copain récemment, par exemple, tu vois, le fait de recevoir sur ton téléphone copie de tous les mails qui transitaient sur le site internet,
ouais.
ça te permet déjà de en plus des réseaux sociaux, en plus de ce que tu entends dans les magasins, d'être connecté avec la réalité du marché. Et c'est vrai que moi, souvent, je prenais plaisir quand tu recevais un mail le samedi soir à 1h du mat sur quelqu'un qui te posait une question. Toi, le fait de répondre dans les 5 minutes donne une valeur énorme et que souvent, il pouvait arriver que quelqu'un se plaignait de quelque chose. Et le fait d'accuser réception de la plainte dans un temps extrêmement court et en plus par l'un des cofondateurs avait une valeur inestimable. Moi, j'adorais être en prise directe avec le marché. C'était, je trouve, vraiment extraordinaire. Et l'autre chose, tu vois, qu'on n'a pas fait tout le temps et je le regrette à la fin, c'est qu'en fait, même, on était une petite boîte quand même, on était à plus de 100 trublions, c'était de dire, même si tu n'interviens quasiment après que la décision soit prise par les équipes, c'est de voir en entretien toutes les personnes avant qu'elles soient recrutées.
Ouais.
Parce que même si tu n'exprimes pas d'avis, tu crées aussi un lien émotionnel avec la personne, même si elle ne te voit pas tant que ça, même si elle ne te reporte pas, ça crée quand même un lien émotionnel très fort. Et ça, je regrette qu'à la fin, on n'ait pas vu Michel ou moi, surtout on avait la chance d'être deux, toutes les personnes en entretien individuel avant qu'elles soient recrutées.
Ouais. Et donc, du coup, même si les gens, on savait qu'elle était recrutée, vous avez fait une propale et les gens avaient accepté l'offre, et tu les voyais ou finalement...
Alors, c'est mieux de le faire avant que la propale, mais même pas dans une logique
de validation,
simplement de courtoisie, de découverte mutuelle. Parce que je dis toujours, moi, c'est pas nous qui recrutions, c'est un recrutement, c'est un oui commun. C'est comme après les périodes d'essais qui sont pour moi des éléments en fait extrêmement importants. Et c'est pas je décide de te confirmer, c'est est-ce qu'on se confirme mutuellement. Parce que tu peux t'être planté aussi, et j'aime pas du tout ce lien de dépendance induit par la hiérarchie, par le fait qu'il y en a un qui paye et l'autre qui reçoive un salaire.
Ouais.
Donc c'est un truc qu'on n'a pas fait à la fin et je le regrette.
Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que je me rappelle quand j'étais salariée, j'avais une équipe et au moment de la validation des parts d'essai, à chaque fois je me disais, parce que je me reportais à moi-même, je disais nous on a envie de continuer avec toi et toi est-ce que tu as envie
exactement.
Et toi, on continue. Non, mais en fait.
Non mais t'as entièrement raison. C'est moi j'ai envie et toi qu'en penses-tu, tu vois? Est-ce que t'as envie? Si t'as pas envie,
ça sert à rien.
Non. Ouais. Donc mais c'est pas facile parce que la hiérarchie, le fait qu'il y en a un qui paye l'autre, induit des biais. Mais toi, un de mes sujets de réflexion aujourd'hui, c'est comment les situations de dépendance, que ça soit financière par un salarié et son employeur, affective dans des familles, dans plein de différents contextes, à quel point souvent la dépendance influe sur notre capacité de discernement et de vérité.
Ouais, c'est sûr, ouais, clairement. Enfin, tu vois, souvent, j'en parle avec... c'est surtout, je pense, un sujet féminin. Le côté un peu genre ton boss, t'as un peu l'impression que c'est ton... Enfin, je sais pas, que la relation parent-enfant, et du coup, tu ne dis pas, en fait,
ah, mais,
tout. Ouais. Et en fait, moi, je sais que j'étais complètement dans cette relation, notamment dans mon dernier job, et qu'en fait, j'ai pas assumé mes responsabilités de VP marketing, parce qu'en fait, j'avais pas la bonne position, alors que mon boss était plus jeune que moi. Mais c'est juste qu'en fait, tu te retrouves dans une situation où finalement, tu fais pas bien ton job que t'as peur de dire des choses, en fait.
Bah, la liberté de parole, de discernement, de jugement, toujours fait avec bienveillance, tact, etc. Mais tu vois trop et tu le vois dans les grandes organisations. Bah, j'entends dire que quand t'es grand patron d'une boîte du CAC, en fait, les gens autour de toi, ils te disent pas ce qu'ils pensent. Notre président de la République, est-ce que les gens autour de lui disent vraiment ce qu'ils pensent? Donc, je crois que ça, c'est très rare, mais très riche, ceux qui gardent une totale liberté de parole.
Ouais.
Et de...
Il va dire que je parle encore de lui, mais je parle beaucoup de mon mari, donc qui est entrepreneur depuis plus de 15 ans. Et régulièrement, quand j'étais salariée, il me disait, mais Charlotte, tu dois dire à ton boss, en gros, ce qui va pas. Et en fait, il attend ça de toi. Et il me dit, mais moi, je suis hyper content quand des gens de mon équipe me remontent des choses qui vont pas. On est tous imparfaits. Et donc, du coup, c'est ça ce qui fait avancer, en fait. Il attend pas que tu dises amen à tout et au contraire, en fait.
Tout à fait, je partage.
Et du coup, dans l'aventure de Michel Augustin, donc il y a eu le rachat.
écoute, le rachat, je sais pas le mot que j'emploie, non. mais
t'aurais utilisé écoute, quoi comme mot
non mais de passation je ouais. trouve ou je crois que nous on s'est quand même vraiment engagé et comme tout entrepreneur hein, de manière phénoménale avec un niveau d'énergie de passion je dirais au-delà du raisonnable mais comme beaucoup et qu'il y a un moment moi je le sentais je commençais à être moins bon moins pertinent moins créatif moins lucide, moins envieux aussi, parce qu'à un moment, t'es à la fois t'adores, mais t'es aussi dégoûté tellement, t'as une forme de saturation, et te dire, mais attends, ce qu'on a fait, c'est quand même un truc sympa, il n'est pas question qu'on arrête et qu'on arrête tout. Donc, c'est vraiment la passation de témoins, et c'est, voilà, nous, on l'a fait, après l'aventure Starbucks, quand j'étais aux US, on s'est dit ça y est, c'est peut-être le bon moment d'envisager de transmettre. Et voilà. Et donc là, on a regardé qui pouvait être intéressé par reprendre et poursuivre l'histoire. Et après une réflexion, des échanges, ça a été Danone. Avec une transition qui a été très bien orchestrée et balisée, parce qu'elle était lente, elle était longue.
Ça s'est fait sur combien de temps ?
Sur 4 ans.
Ouais. En effet. Voilà, général, c'est donc, plutôt 2 ans, non ?
Ouais, ça dépend, mais voilà, après, est-ce que c'est bien, pas bien ? Moi, j'ai plutôt tendance à croire que plus c'est rapide, mieux c'est.
Ouais.
Contrairement à ce qu'on croit, parce que il faut réinjecter des convictions nouvelles, il faut réinjection, une nouvelle façon de faire. Moi, j'étais surtout pas là dans une logique de dire il faut préserver et garder tout pareil. Je pense que justement, il faut de temps en temps renverser la table. Voilà. Donc, c'est jamais des périodes très faciles. Mais une fois que tu le décides, t'acceptes les avantages et les inconvénients. Et moi, j'ai jamais considéré ça comme un bien personnel, Michel Augustin, parce qu'on avait toujours eu plein de copains actionnaires au départ. Puis après, on a eu la famille Pinault qui nous a accompagnés pendant assez longtemps. Et surtout, la notion de collectif était dès le départ, parce que c'était Michel et moi. Et après, une tribu. Et on a toujours fait très attention à ce que la tribu soit vraiment les porte-paroles de l'aventure et qu'on s'efface individuellement au profit d'un collectif. Donc, j'ai jamais vécu ça comme mon truc à moi, mon bébé. Tu vois, on savait qu'on était que de passage.
Ouais, d'ailleurs, c'était Charlotte qui était partie à New York.
Non, mais on a eu des porte-paroles ouais. internes, Charlotte et Hassan, qui sont partis. Et oui, nous, on a été médiatisés en tant que personnes physiques parce que les médias veulent des porte-paroles. Ouais. Mais tu regarderas à l'époque, hein, quand j'étais là, tout ce qui était packaging et les médias dont on était propriétaire du contenu, donc tous les réseaux sociaux. Dire, tu prends tout Facebook, Michel Augustin, je pense que ma bobine n'apparaît pas plus que n'importe quel autre monde, voire un peu moins. On a toujours fait très attention à pas être dans une espèce de starisation système. On a refusé tous les trucs people parce que c'était vraiment l'attribut qui portait l'aventure et pas Michel et moi.
Et si mes souvenirs sont bons, à l'époque, le marketing, c'était du 100% interne.
Oui, alors ça, c'était aussi une marque de fabrique étonnante à l'époque. C'était de te dire que dès qu'on avait besoin d'une compétence, on préférait la recruter et en faire Charlotte et Hassan, qui étaient des reporters de la tribu. C'est comme si tu avais une mini boîte de prod interne et dans une boîte qui fait des biscuits et des yaourts, tu vois. Donc, nous, très vite, tu vois, par exemple, toute la partie design, packaging, qui demande quand même pas mal de ressources. Tout était in-house. Une des premières personnes qu'on a recrutées dans mon appart dans le 18e, c'était Perrine, qui était une stagiaire à l'origine, qui faisait la partie graphique. Donc, on a travaillé avec très, très peu d'agences. Après, on a des copains qui sont venus nous aider parce que pour éviter de réfléchir qu'en interne. Mais globalement, oui, toutes les compétences clés étaient en interne.
Ouais.
Ça donne de la réactivité très forte, de sentiment d'appartenance très fort, de l'émulation. On a tout sous la main. Et in fine aussi, ça coûte beaucoup moins cher. Parce que avoir 4 graphistes en interne, c'est moins cher que de faire bosser une agence. C'était ce côté in-house a été un truc qui a été toujours, je trouve, aussi très déterminant dans notre agilité, rapidité à faire.
Et ça, c'est quelque chose que tu referais ? dans avec le contexte actuel?
Je sais pas. Je sais pas. Parce que maintenant, t'as tellement de freelance, je sais pas. Je pense que je ne ferais pas bosser de très grosses boîtes, ou en tout cas sur des missions extrêmement bien définies. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus déstructuré, et que t'as beaucoup plus de moyens de faire que nous à notre époque.
Ouais, c'est sûr. Et à partir du moment où l'échéance des 4 ans approchait, donc de la fin de l'aventure Michel Augustin, comment...
De la fin pour moi, hein,
ouais. Oui, bien sûr. On peut toujours manger des bons biscuits, des bons cookies et boire des vaches à boire. Du coup, pour toi, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent que c'est un moment qui est compliqué, avec la peur de la page blanche d'après, justement, pour faire le parallèle avec ton cahier.
Écoute, est-ce que ça a été compliqué? Nous, on a séparé deux choses, c'est qu'on a fait une transition opérationnelle il y a 18 mois, tu vois, tout en restant un peu présent. Donc, ça s'est fait très doucement. Puis après, ce qu'il faut, c'est quand on a recruté l'actuel PDG qui est arrivé il y a un an, on a coupé là du jour au lendemain pour être certain de ne pas interférer. Et on l'a pas forcément très bien fait, parce que le départ a peut-être un peu brutal et que la tribu a pas forcément tout compris, puis nous non plus. Mais au moins, ça a le mérite de la clarté et de laisser à Sébastien aujourd'hui une totale responsabilité et marge de manœuvre.
La fameuse confiance que vous lui donniez.
Oui, voilà, il y a pas d'interférence. Après, nous, on dit ce que l'on pense quand on nous demande notre avis. En tout cas, on n'est pas proactif et on n'interfère pas. Et après, moi, c'est là où j'ai sorti ce mot que j'aime beaucoup de Jachère, où effectivement, moi, voilà, entre les 15-16 ans de Michel Augustin et les US, moi, j'avais un business de famille dont je m'occupais un peu le week-end, qui a été compliqué à gérer, 5 enfants en parallèle, puis un certain nombre d'autres trucs. Donc moi, j'avais vraiment le besoin d'être en Jachère, et je le suis encore aujourd'hui, mais ça m'a pas empêché d'être prof pendant un an.
T'as été prof d'éco, quoi.
D'éco dans un lycée pro dans le 15e. Je fais beaucoup d'accompagnement individuel sur des personnes qui ont des difficultés personnelles. Et donc, avec beaucoup d'écoute, un peu de bon sens, comment est-ce que tu arrives à démerder ou à les aider à démerder les situations complexes dans lesquelles ils sont.
Donc pas du tout une relation d'entrepreneur, c'est vraiment
de l'humain. Moi, je trouve que je trouve qu'autour de nous, et on a tous des moments et des épreuves, et comment par de la disponibilité de temps, par de l'attention, c'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à percevoir les signaux faibles, de la disponibilité de temps, de l'écoute, quelques bonnes questions, t'arrives quand même à aider les gens à cheminer. J'aime bien aussi ces notions de points, d'éléments déclencheurs. C'est-à-dire que, tu vois, un truc qui m'a vachement amusé cette dernière année, c'est que j'ai un de mes très bons potes, qui a une très belle carrière d'entrepreneur aussi, qui repartait sur des missions de conseil, mais dont le rêve profond depuis 25 ans était de faire du one-man show.
Ouais.
Et toi, il y a un an, après un brainstorming, j'ai appelé sa femme pour lui dire « Écoute, est-ce que je peux réserver un théâtre pour qu'il se produise ? Qu'est-ce que t'en penses ?» sans lui demander de l'avis à notre copain. Sa femme a dit « Écoute, banco, c'est une super idée, ça fait 20 ans qu'il nous pompe avec ce truc-là, il a toujours pas fait. Toi, comment, par rien, c'est réserver un théâtre 3 jours de suite, 8 mois à l'avance, tu crées cet élément déclencheur pour que cette personne, d'un rêve, en fasse une réalité. » Et donc, toi, j'aime bien cette attention aussi dans nos entourages, de te dire, est-ce que, de manière délicate, tu es capable de déclencher, quoi, de créer l'écosystème pour que cet élément déclencheur permette à la personne de réaliser un rêve, de s'épanouir, de changer de job sur un truc qui lui correspond mieux. C'est parce qu'en fait, tu vois que ça peut se travailler. Ouais. Voilà, donc
Et du coup, il l'a fait?
Oui, il l'a fait. Et je t'en parle parce que alors moi, je me suis improvisé totalement producteur amical. Donc, il a fait un carton. 3 soirs, on était plein. Moi, j'ai globalement rien fait à part réserver le théâtre. et l'encourager. Ouais. Et il a un talent fou. Alors, ça reste un amateur qui s'est fait accompagner d'amateurs, mais pour un niveau de prestation, je trouve exceptionnel. Donc, moi, j'ai rien fait, j'étais pas sur scène, mais j'ai cette satisfaction de te dire que j'ai contribué modestement à faire émerger un talent et à ce que quelqu'un qui avait un rêve en fasse une réalité. Donc, je pense que notre mission aussi à tous, c'est aussi de, quand on est attentif à son entourage, d'être capable. Et on n'est pas forcément capable avec tout le monde. Hein. De temps en temps, il y a des trucs qui marchent pas. De temps en temps, on n'est pas la bonne personne. Et il faut le faire avec beaucoup de tact. Mais c'est le genre de truc qui m'amuse. Ouais, ouais, et j'ai le temps. Et pour ses enfants, pour sa femme, c'est pareil. Hein. Donc, c'est la chance d'avoir du temps pour les autres. Ouais. Ce qui est pas donné à tout le monde. Donc, moi, j'ai cette chance-là aujourd'hui. Et j'essaye d'en tirer profit.
Ouais, c'est super. Et dans ta jachère, t'as des choses qui se profilent ou pour l'instant, il n'y a rien dont on puisse parler?
Écoute, j'ai des idées très farfelues dans plein de domaines différents. Il y en a une qui me questionne beaucoup. Alors, je la formule pas très bien, mais j'ai commencé à écrire pas mal de trucs dessus. C'est un peu compliqué, mais... Beaucoup de gens aujourd'hui nous incitent à changer notre façon de vivre. Et je trouve que toutes ces personnalités qui devraient nous entraîner par une exemplarité individuelle sont encore dans des discours, je trouve, très macro. Est très déresponsabilisant dans le sens où c'est toujours, on se met toujours en situation de dépendance d'un gouvernement, des sociétés, et qu'en fait, moi j'aime bien cette expression, il n'y a pas de petits gestes si nous sommes 7 milliards à les faire. Et ça m'interpelle, tu vois, je te prends un exemple qui m'a frappé, et tu vas voir là où j'en viens, la Convention citoyenne. T'as une des mesures qui a fait polémique et qui était le fameux 110 km/h. Et donc, sans doute, les femmes et les hommes de la Convention, certains voulaient le faire et d'autres pas, j'ai pas bien suivi, hein. Mais en fait, moi, j'aurais été l'un des 150 où tous ceux qui voulaient porter la mesure, plutôt que dire au gouvernement, mais faites-le, puis le gouvernement qui dit non, on fait pas. Moi, j'aurais été invité chez Léa Salamé sur France Inter et j'aurais dit, moi, Jacqueline de la Convention citoyenne, je pense que c'est bien et c'est tellement, je pense tellement vert qu'en fait, je décide aujourd'hui, moi, Jacqueline, que la prochaine fois et pour toute la vie, quand je prends l'autoroute, je roule à 110 km/h. Et je mets sur ma petite voiture un autocollant 110 parce que c'est mieux pour mon porte-monnaie, parce que je consomme moins, ça fait moins de bruit, il y a moins d'accidents, c'est meilleur pour la planète, donc c'est un carton plein. Et je te demande, toi qui m'écoutes dans ta cuisine, en fait, de faire pareil. Et j'ai pas besoin que le gouvernement légifère. Et comment tu crées des mouvements puissants qui rassemblent des gens autour de décisions individuelles? Et donc la question sur laquelle je réfléchis activement aujourd'hui, c'est, penses-tu, Charlotte, qu'il est possible de réunir 1 milliard de personnes qui décident, qui prennent la même décision individuelle à peu près au même moment. Et ça, le truc m'excite pas mal, parce que moi, j'essaie toujours de me dire en quoi est-ce que je fais est différent, on tente des choses différentes, et pour en maximiser l'impact. Et cette démarche-là, parce que écrire le énième bouquin, c'est super, écrire le énième manifeste, c'est super, faire le énième film, c'est super, mais c'est pas game changer. Et te dire que est-ce que tu peux avoir demain Barack Obama, Bill Gates, je dis n'importe quoi, Nicolas Hulot, Paul, Pierre et Jacques, qui publiquement décident de dire, moi, Nicolas Hulot, le 1er janvier 2021, j'ai décidé que je ne ferai plus jamais ça, et je vous demande de prendre la même décision parce que c'est mieux pour moi, c'est mieux pour la planète, et si on est 1 milliard à le faire, ça va changer totalement la donne. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel je réfléchis et qui aujourd'hui m'interpelle.
Ouais, c'est génial. J'ai hâte de...
Voilà, ouais. Non, mais la probabilité que ça marche, évidemment, est totalement infime, mais
en même temps, hein,
why not, tu vois, why not, parce que je trouve que ce truc-là, Et j'ai deux, trois mesures sur lesquelles je travaille qui pourraient être la première décision qui soit prise individuellement et portée par un collectif qui vise à atteindre à terme 100 millions, 1 milliard de personnes.
Ouais. Bon, à suivre.
Oui, oui, attends.
Il y a du boulot, mais c'est sûr que quand tu prends les choses sous ce prisme-là, pourquoi attendre des lois et attendre que des mecs se réunissent dans une petite salle
C'est vrai, et je pense que le 110 km/h, en fait, est un truc que je trouve vraiment hyper intéressant, parce qu'en plus, tu as ce phénomène de... en fait, tu le vois, c'est-à-dire que tu es sur l'autoroute à 130, si tu vois, tu doubles une voiture, il y a marqué en gros « je roule à 110 », forcément, tu vas dire, ça me fait réfléchir. Tu t'arrêtes à la station service Total, tu vois deux caisses qui ont un sticker, je roule à 110. Et comment tu crées, enfin, un phénomène d'enthousiasme contagieux qui disent, attends, mais c'est pas con, moi aussi, je roule. Et sans qu'on demande à l'État de légiférer, ou il faut quasiment que ceux qui roulent à 130, moi je roule à 130 encore aujourd'hui, mais que ceux qui roulent à 130, à la fin, se sentent,
plus ceux qui roulent à 150.
Se disent, en fait, je ne peux plus. Ouais. Je ne peux plus, pas parce qu'on me l'interdit, parce que en fait, le collectif m'a montré qu'ils avaient raison de conduire à 110.
Qu'est-ce que tu penses que le petit Augustin de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui ?
Ça, je ne sais pas. Ça, je... Bon, il y a une forme de cohérence, il y a une forme de... Moi, j'avais l'utopie de me dire que je voulais contribuer à sauver le monde. J'ai évidemment pas du tout réussi, mais écoute, cette première partie de vie est une période que j'ai trouvée passionnante, riche, difficile, mais voilà.
En quoi difficile ?
Difficile, pourquoi ? Difficile, pourquoi ? Parce que je trouve qu'on a quand même beaucoup de responsabilités, mais moi pas plus qu'un autre, hein. Et il faut arriver à dans ton entreprise, dans ta famille, dans ta vie sociale, à se préoccuper des uns et des autres et d'essayer de tirer le meilleur de chacun, quoi. Je trouve qu'on est, pas, moi, j'ai toujours un peu la nostalgie de la période étudiante où tu avais une forme de liberté absolue et d'aucune responsabilité. Et je trouve que même à mon petit niveau, on est responsable de plein de choses.
Ouais. Quand on dit qu'il y a, quand il y a des choix, il y a des renoncements. Pour toi, ça serait quoi les renoncements ?
Le renoncement, c'est peut-être, après c'est très, les freins que l'on a sont très psychologiques, hein. Moi, j'adorais retrouver une liberté géographique, tu vois, de pouvoir me balader où je veux dans le monde, aller vivre ailleurs, de toujours un peu cette frustration de ne pas avoir été aventurier. Mais aujourd'hui, mon renoncement à ça, c'est parce que je m'impose de rester à Paris pour mes enfants, parce que je les y sens bien. Voilà, mais en sachant que moi, ce qui me fascine aussi dans la vie, c'est qu'on anticipe et qu'on vit souvent la tête baissée dans le cycle dans lequel on est. Mais te dire que le cycle d'aujourd'hui dans lequel je suis moi, ça sera pas du tout le même dans 10 ans, parce que mes enfants seront probablement plus là, donc c'est très intéressant. Je trouve que on sait qu'il y a des cycles dans la vie, mais qu'en fait on les appréhende très peu. On a du mal à s'imaginer, moi, que dans 10 ans ma vie sera radicalement différente à celle que j'ai aujourd'hui, simplement parce que mes enfants seront plus là, tu vois. Et que quand on est enfant, on a peu... Toi, je trouve que ces étapes de la vie que l'on connaît de manière théorique, dans sa vie pratique, on se projette assez peu dedans.
Ouais, c'est sûr.
On a tendance à vivre la tête dans le guidon et, tu vois, moi, rien, un tout petit détail, j'ai un de mes enfants qui est post-bac et est parti étudier en province. Je le savais, mais j'avais pas compris à quel point ça allait impacter déjà ma vie quotidienne, parce que l'ambiance à la maison n'est plus tout le même. C'est très étonnant.
Ouais.
Je le savais, mais en fait, je me retrouve à le découvrir un peu au pied du mur.
Ouais. Oui, sachant que t'en as encore 4 à la maison.
Oui, bien sûr.
C'est quoi ta plus grande difficulté, selon toi, que t'as eu à traverser ? Comment tu l'as gérée ?
ma plus grande difficulté, c'était, je pense, d'arriver à me préserver. C'est-à-dire que quand tu es très passionné, enthousiaste, c'est d'arriver à dire attention, donne pas tout tout de suite, et d'arriver à gérer son capital énergie, psychique, physique. Donc moi, ça a été voilà, d'arriver à, entre guillemets, à s'auto-limiter de temps en temps et à se gérer soi-même. Donc ça a été pour moi le truc sans doute le plus complexe.
Comment t'as fait du coup pour y arriver?
C'est par une forme d'introspection assez forte, de d'outils de pilotage interne. C'est par les erreurs aussi que tu fais.
Quand tu dis outils de pilotage interne, c'est
Moi, je vois très bien. Non, mais moi, je considère toujours que j'ai comme une espèce de tableau de bord de voiture en moi. Et je sais que si je suis comme ci, comme ça, c'est que je suis sur des phases orange là-dessus et qu'il faut que je dorme plus, que je fasse plus de sport, que je lève le pied, que voilà. Donc moi, j'ai appris assez bien à me gérer. Ce qui est quand même une clé du succès, entre guillemets, c'est cette capacité à apprendre à se gérer est quand même fondamentale. Les choses qu'on l'apprend pas beaucoup, quoi. Il faut avoir cette sensibilité-là, et c'est un truc qu'on apprend un peu tout seul, quoi.
Ouais. Ça a été quoi tes plus grandes peurs? Ou ça l'est toujours, d'ailleurs?
Ah, c'est marrant, parce que c'est un exercice que je fais faire à pas mal de gens sur d'écrire sur un paperboard. Un paperboard, les peurs qu'ils ont. Et j'aime bien cette expression de Tony Robbins. Tu sais, le grand Manitou américain, là, un peu du PNL, de la PNL, qui dit « Dance with your fears », donc apprendre à danser avec ses peurs. Alors moi, je te dirais une peur qui est très personnelle, hein, et là, je vis depuis 20 ans avec la même femme, et ma peur serait un jour de ne plus l'aimer. Ça me ferait un peu chier, tu vois.
Ouais.
Voilà, donc c'est peut-être la vraie peur que j'ai. Et après, la peur que je pourrais avoir, c'est que mes enfants ne trouvent pas leur chemin de vie. Et voilà, et toi, je me disais, mais une fille, à la fin du fin, qu'est-ce que tu aimerais avoir vraiment réussi? Moi, j'aimerais que mes enfants, à l'âge adulte, que je ne sois jamais un problème pour mes enfants. Tu vois, ce que je trouve que c'est quand même des trucs qu'on voit fréquemment. Ouais, de jamais être à l'âge adulte un problème pour mes enfants, et que ils aient chacun trouvé un chemin de vie et une forme de cohabitation entre eux, sans être forcément très proche, mais en tout cas harmonieuse.
Ouais.
C'est ça. C'est mes peurs, ça serait de pas arriver à faire ça.
D'accord. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui?
Ah, j'aime pas le mot fierté, mais ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est que une fille, je me dis tout ça pourquoi, et c'est de te dire qu'on a été l'une des briques d'un écosystème avec Michel Augustin qui a donné envie à une génération d'étudiants et de jeunes d'entreprendre. Voilà, c'est d'avoir contribué à réveiller l'entrepreneuriat en France. On est aujourd'hui de l'ancien monde, tout a changé, mais c'est vrai, quand on croise des jeunes de 20 à 30 ans ou 35 ans, ils nous disent écoutez les mecs, vous êtes un peu les papis de l'ancien monde, mais vous nous avez donné envie d'entreprendre.
Ouais. C'est quoi pour toi la réussite?
La réussite, c'est faire le bien autour de soi.
Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qu'on croise là, qui connaît rien à ta vie et qui dit mais en fait toi c'est uniquement grâce à de la chance si t'en es arrivé là?
Qu'est-ce que je dirais? Oui, la chance. Oui, mais oui, moi, je pense que la chance joue beaucoup. Mais je pense pas qu'il faille attendre toute la chance. Hein. C'est pas suffisant. Mais finalement, on a eu beaucoup de chance, hein, c'est clair.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui?
Oui, peut-être sur le discernement. De non, ce que c'est pas un conseil. Je trouve que on revient sur la discussion tout à l'heure sur la partie liberté de parole et de jugement. Je trouve qu'on vit dans un monde où par ces sujets de dépendance, on se dit, en fait, les paroles sont souvent très édulcorées, ou et je pense que dans ma vie, on m'aurait dit des choses de manière un peu plus cash, ou peut-être qu'on me l'a dit mais que j'ai pas voulu entendre, hein, mais j'aurais pu gagner beaucoup de temps, tu vois, sur des compréhensions de situation, d'analyse. Toi, j'ai moi beaucoup travaillé sur le discernement. C'est parce que tu émets une critique au sens constructif sur quelque chose ou quelqu'un que cette personne se résume à cette critique. Pas du tout. Donc, ouais, je pense qu'une liberté de parole. Moi, j'ai plein de défauts. J'ai beaucoup changé en 20 ans, je pense. Mais moi, j'ai toujours fasciné par la différence entre ce que chacun croit être et la perception des autres, tu vois.
Ouais.
Il y a ce jeu-là de dire, en fait, qui suis-je et qu'est-ce que je suis pour les autres. C'est très intéressant de voir à quel point l'écart est énorme. Cet écart-là, il est vachement intéressant à creuser.
Ouais. C'est une question, tu parlais de plateforme de marque tout à l'heure, c'est une question qu'on pose dans le cadre d'une marque, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de la poser aussi de façon individuelle. C'est quoi tes prochains défis?
Un de mes défis, c'est quand même de retrouver un projet dans lequel je me réalise.
Ouais.
Et là, c'est un peu le syndrome de la page blanche. Est-ce que tu te dis, est-ce que je vais en être capable ou est-ce que je vais me marginaliser, tu vois? Donc, j'ai plutôt confiance, mais je serais content quand ça aura démarré.
Ouais.
Et ça peut prendre une forme totalement différente, mais retrouver une forme de collectif, d'enthousiasme, de sens. Voilà. Après, je suis très content de faire ce que je fais aujourd'hui. Je passe beaucoup de temps à la maison avec les enfants. J'ai aussi des moments bénis après avoir passé 15 ans dans le pétrin.
Et ça, c'est un truc qui peut potentiellement te mettre un peu plus de pression qu'à n'importe qui, là, le fait justement d'avoir déjà réussi une belle aventure en amont.
C'est un sujet, c'est la peur de l'échec, que tout le monde a forcément de manière plus ou moins induite. Mais tu vois, moi, j'ai c'est marrant, l'expérience que j'ai vécue aux US, je me suis mis une énorme pression quand je suis parti aux US, qui était une énorme connerie, en fait. Et ça a été pour moi, dans la réalisation perso, un échec. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à faire démarrer. Mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, j'en ai, je vais pas dire que je suis content, j'aurais préféré que ça marche, mais j'en ai aucun regret et je me sens pas abîmé, tu vois, par cet échec-là. Donc ça, où c'est vraiment, tout est tellement relatif, tu vois, on se prend la tête sur des trucs de temps en temps qui n'ont pas de sens, quoi. Là aussi, j'ai vachement appris, moi, à discerner sur les choses qui sont importantes et les choses qui ne le sont pas, tu vois.
Ouais.
On passe quand même notre temps à se prendre la tête sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. Hein.
C'est sûr.
Ouais.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
C'est compliqué, ça. Merci. Moi, je dirais merci à ma femme qui on vit quand même une histoire incroyable depuis 20 ans. Et globalement à mon entourage qui m'a toujours porté, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas des milieux castrateurs ou moutons, ou doivent vraiment. Je lisais une très belle citation là aussi sur le fait de ne pas projeter ses rêves sur ses enfants, de laisser. Moi, on m'a toujours laissé. On m'a toujours laissé. Toi, évoluer et voler comme j'avais envie de faire, tu vois, en fonction de mes talents. Et ça, je trouve que c'est vraiment super important de respecter. En fait, le respect et ne pas être dans le jugement permanent ou la critique selon ses idéaux. Et moi, j'ai eu un entourage qui a été extrêmement porteur là-dessus.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Hein.
Avec plaisir, à très vite.
Ouais.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter le parcours d'un autre homme qui est clairement l'idole de beaucoup d'entrepreneurs. Chose amusante, j'ai découvert entre-temps qu'Augustin et Stéphane sont amis. Pour savoir qui est ce fameux Stéphane, je vous dis rendez-vous sur Instagram ou sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je te souhaite une très belle fin de semaine et je te dis à jeudi prochain dans un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?